conseille vivement de faire à la conférence de M. Georges Ansel, il ressort, et il ressortira, je pense, ce soir, que la différence fondamentale entre pharisiens et sadducéens portait sur leur attitude vis-à-vis de la loi orale, c'est-à-dire qu'ils acceptaient la Torah écrite, mais qu'ils n'acceptaient pas la Torah orale, d'où le sujet que j'ai également choisi de traiter en texte. Nous avons donc vu hier qu'il y a le texte de la Gemara Shabbat 88, bon, que je vais donc rappeler très brièvement une fois encore avant de passer au Midrash que nous étudions aujourd'hui. À un moment du don de la Torah, avant de la révélation du Sinaï, il y a toute une préparation. Je vous ai souligné les passages importants dans ce texte que vous avez eu hier, ce petit montage biblique où l'on voit que les Hébreux sont tout à fait ardents et enclins à recevoir de bon cœur et de façon absolument libre la Torah qui leur est proposée, puisque nous avons ces passages « Kol asher diber Hashem naaseh », tout ce que le Seigneur a parlé, nous ferons, toutes les paroles qu'il a parlé, nous ferons, et surtout la phrase qui nous poursuivra comme un leitmotiv, le « Kol asher diber Hashem naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons. Et nous avons donc ensuite vu comment le Talmud lit le verset qui montre les Hébreux se préparant à recevoir la Torah, par les diapsevous de Sartis-Aurore, ils se tinrent debout au pied de la montagne, et voilà un enseignement qui tombe très abruptement, qui est que, un enseignement de Rav Abdimi, cela enseigne, ce verset enseigne, que Dieu a retourné la montagne comme un baquet sur eux, et leur a dit, si vous acceptez la Torah, bien, sinon, Sham, là, non pas ici, mais là, quelque part, là-bas, sera votre tombeau. Et il s'ensuit, comme le fait remarquer notre rabbin, qu'il y a, donc à ce moment-là, une ambiguïté, une protestation possible à part d'Israël, qui pourrait dire, comme l'expliquait Rachid, vous en souvenez, si Dieu nous convoque Israël devant un tribunal, le cite en justice, en lui disant pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez accepté sur vous. Eh bien, il faut répondre, et on l'a reçu de force. Donc, on ne se sent pas lié pour l'accomplir. Et cette difficulté étant apparemment réelle, le Talmud continue en enseignant sous la parole, justement, Torah orale, de Rovo, même si on est ainsi, eh bien, cette ambiguïté, ou en tout cas, cette protestation possible, a été éliminée à l'époque d'Assyrus, lorsque Kimu, le Kiblu, Ayodim, les Juifs ont accompli et ont reçu la Torah, et la Gemara interprète, Kimu, Ma, Shikiblu, Kfar, ils ont accompli à ce moment-là ce qu'ils avaient déjà accepté auparavant. Et la Gemara ensuite explique l'importance de cet enjeu par donc un double enseignement. Premièrement, le verset cité par Ischio, que signifie 9 du psaume 76, Mishomayim Ishmato Din Eret Yorov Shokoto, des cieux tu as fait entendre Din et Torah, et Rashi explique que c'est Torah, tu as fait entendre la Torah, la terre a tremblé, a été effrayée, puis a été calme, on pose la question, ben, s'il a tremblé, pourquoi elle a été calme, et réciproquement, et on nous explique que les deux ne sont pas concomitants, elle a tremblé avant. Au commencement, Rashi dit, avant qu'Israël le dise, Nasé Venishma, avant qu'Israël dise, nous l'accepterons, il a été calme ensuite, et ça va bien avec l'enseignement de Reish Lakish, qui enseignait un enseignement connu. Pourquoi a-t-il écrit le verset 31 du premier chapitre de la Genèse? Yerev Ayvokayom Hashishi, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il fait soir que matin, jour le sixième, un ré supplémentaire, qu'est-ce que j'en ai besoin, demande la Gemara. Eh bien, c'est pour enseigner que Dieu a stipulé, Tisno, avec Masé Bereshit, avec l'œuvre du commencement, en leur disant, Im Israël me kablin à Torah, Israël accepte la Torah, Atem, vous, c'est-à-dire le monde, Miskaimin, vous subsistez, Im Lo, sinon, Animar Zirestreb, le Torovo. Pour ceux qui s'intéressent à l'aspect linguistique des choses, je signale qu'il y a toujours une étude à faire, que nous n'aurons pas le temps de faire, sur le fait que les termes qui reviennent comme en balancement, vous avez toujours Kabbalah, Yom et Chazara. Vous avez le problème Kibel, recevoir, Kayem, accomplir, et Chazar, revenir. Ça, vous relirez, vous verrez, sur ces trois, il y a toujours équivalence ou rapprochement entre ces trois termes. Alors, hier, c'était extrêmement intéressant parce que, en fin de compte, le dialogue que nous avons essayé d'instaurer ensemble a montré à quel point il est difficile d'échapper à deux risques, ce ne sont pas des risques, enfin disons à deux biais possibles de l'étude talmudique qui se veut objective, c'est-à-dire en essayant de lire d'abord ce qui a été écrit et transmis par la tradition. La première consiste à projeter déjà d'emblée ses propres a priori sur le texte. J'ai entendu, bon, hier, il y avait une dame au fond de la salle, il y a une intervention fort émouvante, enfin, c'était extrêmement belle, extrêmement... Mais, ce qu'elle disait, c'était une conséquence possible de ce texte, mais il ne s'agissait pas de ça, le texte ne disait pas cela. Le texte s'occupait d'un problème de halakha. Le texte s'occupe de problèmes de logique. Il ne s'agit pas... La Gemara ne va pas s'étonner, et les commentaires ne vont pas s'étonner du fait que Dieu a sauvé la montagne, qu'il a rencontré Israël, ça c'est naturel. Pour les Chachamim, bon, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que Dieu prenne la montagne, vienne la rencontre d'Israël ou la renverse. Ce que les sages vont voir, est-ce que c'est logique? Y a-t-il une logique? Y a-t-il une cohérence? Comment Dieu peut-il faire cela alors qu'Israël avait dit l'Anse Benishma? Là, les Chachamim vont intervenir. Là, on ne comprend pas. Vous voyez où se trouve le problème. Et lorsqu'on dit il y a contestation, c'est un problème également logique, juridique, de halakha. Puisqu'il y a eu Kefia, et le mot kafa signifie retourner et forcer, on l'avait au tableau depuis hier, mais s'il y a eu kefia, on ne sait plus s'il y a eu acceptation libre de la Torah ou forcée. Par conséquent, du point du halakha, il y a un problème qui se pose, il y a une protestation possible. Moda, ça veut dire protestation devant un tribunal contre un acte fait de force. Donc, le problème, c'est d'essayer de lire la Gemara comme elle est écrite, et de comprendre ce qui peut nous paraître incompréhensible. Le deuxième risque, et c'est celui qui s'est mis en évidence par une autre jeune femme, Olivia, qui est une habituée du séminaire de Léon Ashkenazi et une élève de Kirchner Sovic, qui m'a dit, bon, c'est évident, elle connaissait partie la réponse, elle a étudié, mais moi je ne suis pas inquiète, puisque je sais pourquoi, en partie, cela a été fait. Ce que je voudrais que nous fassions, c'est de lire le texte avec un esprit neuf, c'est-à-dire justement, nous sommes devant un texte, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, effectivement, ce qui a le plus scandalisé, entre guillemets, ce qui a le plus étonné les commentateurs, bien sûr, tous n'en parlent pas, parce que dites-vous bien que lorsque les commentateurs écrivent, ils écrivent déjà pour des gens qui sont eux-mêmes Talmidei Chachamim, des gens qui savent étudier. Par conséquent, lorsque trois commentateurs, au 10e, au 12e siècle, ont posé le problème, par exemple, comment est-il possible qu'après que les épaules d'Ina s'est venu chemin, il y a eu Dieu qui soit arrivé et qui, apparemment, a forcé Israël à prendre la Torah, les commentateurs qui suivent vont pas prendre ce problème. Leur commentaire va porter sur une autre question du texte. Nous avons vu hier qu'il y a une vingtaine de problèmes sur le texte qui suppose, bien entendu, déjà connu, la réponse au premier. D'où une apparente distorsion entre les commentaires des commentateurs, parce que il faut lire les Aharonim après les Rishonim. Il faut lire ceux qui viennent après avoir lu ceux qui viennent avant. Je sais pas, il y a eu récemment dans Le Monde une grande série d'articles sur le meurtre de Darlan, avec un échange de correspondance sur le rôle possible du comte de Paris, etc. Parce que certains d'entre vous ont lu ça. Eh bien, pour quelqu'un qui ne connaissait pas qui est Darlan, qui n'a jamais entendu parler de De Gaulle, ni de Giraud, ni de Humphrey, ni de Roosevelt, ni de Churchill, tout ce dossier de deux pages était incompréhensible. Il y a un bouquin qui vient de paraître récemment de tourner sur De Gaulle. Pas là, quelqu'un qui ne connaîtrait pas les événements de mai 68 ne comprendrait pas un livre sur De Gaulle. Évidemment, tout le monde est censé aujourd'hui savoir ce qui s'est passé en 68. Bon, on parle du départ de De Gaulle, le machin, le défilé français des 31 janvier, avec Debré en tête, le renversement, le meeting, je ne sais plus là où comment il s'appelait, où est arrivé Mendès France. Bon, Charletti, quelqu'un qui ne connaît pas. Autrement dit, il faut bien comprendre, quand on lit comme ça, parce qu'on isole un commentateur, eh bien, il considère évidemment comme connu de savoir qui était De Gaulle, Ravdil, et qui était Roosevelt, qui était Giraud, et un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que là, nous essayons de partir, non pas de zéro, mais de partir en tout cas de la base de la Gemara et ensuite de réintégrer les différents commentaires. Alors donc, l'un des grands problèmes, c'est-à-dire le premier problème, avant de même de comprendre les autres, nous allons aller chronologiquement. La Gemara commence par nous asséner quelque chose d'invraisemblable qui consiste à dire, eh bien, ce verset, c'est-à-dire ils étaient en dessous de la montagne Rachid, c'est-à-dire ils étaient vraiment en dessous, et pas au pied, ils étaient en dessous, ils avaient la montagne par-dessus. Et Dieu l'a retourné cette montagne comme un baquet, il leur a dit, si vous acceptez la Torah bien, sinon là sera votre tombeau. C'est donc une question énorme pour tous les commentateurs, parce que nous savons, enfin, nous sommes censés savoir en tant que juifs parisiens qu'il y a une cohérence, mais cette cohérence, nous ne la voyons pas. Et alors, il passe une chose apparemment curieuse, c'est que on a l'habitude de voir, on pourrait comprendre, disons, que le rôle des Chachamim consiste à expliquer en faveur d'Israël, à expliquer les choses qui peuvent être interprétées de façon erronée. Alors, dire, attention, ne croyez surtout pas que les Juifs ou les Hébreux, c'était des gens pas bien. Bon, comprenez que c'était des gens valeurs. J'ai rappelé hier qui était la génération du Sinaï. Rayon Ashkenazi rappelait ce matin et hier, de qui s'agit-il? Les sangs d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est les Avot, c'est les surhommes, les sangs des 10 tribus. C'est pas n'importe qui. Par conséquent, on peut très bien comprendre que si un texte semble en défaveur d'Israël, les commentateurs nous expliqueront comment il faut le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous souvenez qu'on se base sur toutes ces paroles, « Kol Asher Daber Hashem Naaseh », tout ce que Dieu a fait nous serons. Eh bien, voilà que des commentateurs, n'est-ce pas, nous disent, Rashbam, les autres commentateurs nous disent, mais attention, qu'est-ce qui a marqué? « Kol Asher Diber Hashem Naaseh ».« Kol Asher Diber », les Diber, c'est pas futur, c'est passé. Qu'est-ce que les Juifs hébreux ont dit? Tout ce que Dieu a dit, nous serons. Ils ne sont pas engagés pour ce qui allait arriver par la suite. Vous l'entendez? La lecture, effectivement, c'est la lecture grammaticale. Nous avons, et j'ai bien traduit chaque fois, hier, le texte comme démarqué. Tout ce que le Seigneur a parlé, nous ferons. Et évidemment, comme on a l'habitude de comprendre que ça veut dire tout ce que Dieu dira, nous ferons, personne n'a cité. Mais les commentateurs, eux, qui sont là pour nous montrer ce qui a marqué, nous disent, mais attention, c'est marqué tout ce que Dieu a parlé. Donc, ce qu'il a déjà dit avant, ce qu'il avait déjà révélé avant, les commentateurs nous expliquent qu'il avait déjà révélé avant, d'abord, c'était la confirmation des sept lois noachides, et c'était les lois données à Massa et à Meriba, à Moïse. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques. Disons, il s'agit simplement d'un certain nombre de commentaires de base, concernant le Shabbat, et non pas tout l'ensemble de la Torah. Mais les commentateurs vont plus loin. Ils disent, qu'est-ce qui a marqué? Nous voyons dans le verset que nous étudions, Vayotse, Moshe, Esoam, Dieu a fait sortir le peuple, Ikras, Elohim, à la rencontre de Dieu. Dieu dit sous le nom d'Elohim, c'est-à-dire sous le terme qui désigne la rigueur. Alors, qu'est-ce que les Hébreux ont dit? Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Kol Asher Diber, Kol Advorim, Asher Diber Hashem Naaseh. Kol Asher Diber Hashem Naaseh Benishmo. Tout ce qu'a dit le Seigneur, c'est-à-dire dans la perspective du Dieu de miséricorde. Et les commentateurs disent tranquillement, ça veut dire oui, ils ont accepté la Torah, mais pas la définition. Ils ont accepté la Torah, mais non pas ce qui serait contenu dans la Torah, c'est-à-dire le risque d'être puni si on n'observe pas la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, cette réponse, d'abord, elle semble diminuer le mérite d'Israël, considérablement, puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Rashbam va même plus loin, en lisant tranquillement. Vous savez comment il faut lire? Quand la chère Diber Hashem, Naaseh Benishmo, ce grand Naaseh Benishmo, qui a la louange d'Israël, eh bien, tout ce que le Seigneur a parlé, Hashem Diber, Naaseh, nous ferons. Ce qu'il dira par la suite, Nishma, on va d'abord écouter. On va écouter, on va voir. Bon. Ce qui est absolument, donc, semble-t-il, complètement diminué le mérite d'Israël. Alors, ça serait évidemment une façon apparente de résoudre la difficulté, donc je pourrais dire, mais en réalité, les Juifs n'ont jamais dit qu'ils voulaient la Torah. Vous verrez que cette lecture que je vous ai donnée, c'est-à-dire la traduction du verset en disant que c'est un passé, et le commentaire qu'en ont fait les commentateurs, c'est Emet Amito, c'est vrai, c'est vraiment vrai, mais que ce n'est pas ce que nous entendons en nous disant cela que que le verset dit. Et c'est le Maharal demain qui va nous permettre de le comprendre. Si je vous montre ça, c'est pour bien vous montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles ne paraissent, parce que la réalité que décrit la Torah, c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde, et la réalité, elle est complexe. Le Rav dit, quand on étudie la physique atomique, c'est pas simple non plus. Eh bien, il y a une première tentative de réponse possible qui est dans le Tosafot. Dans le Tosafot, donc, de la Gemara. Vous avez dit hier, je ne voulais pas, pour compliquer les choses, vous citer, vous résumer le Tosafot, mais je crois que ça vaut la peine quand même de le faire en 5 minutes. Notre texte de Gemara, tout ce récit que nous avons lu, se trouve à une nuance près qui le complète, se trouve également reproduit. Tout cet enseignement, à partir du fait que Dieu a retourné la montagne, dans une Gemara à Rodazara, page 2b et 3a. Mais dans un autre contexte, il s'agit d'une conversation, si je puis dire, qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et les nations du monde, au moment du jugement, à la fin des temps. Et à ce moment-là, les nations du monde, Dieu demande, bon, est-ce que vous avez accompli les mitzvot ? Il demande au monde entier. Et tous les peuples défient les uns après les autres. Il y a tout un ordre d'ailleurs. Il y a un ordre. Et on y voit apparaître Edom et la Perse également qui apparaît. Et puis toutes les nations. Et Edom et la Perse sont mentionnés de façon spécifique. Puis à la fin, Israël. Et alors, Dieu leur dit, qui a fait les mitzvot ? La fédération du monde répond. Mais est-ce que tu as retourné sur nous la montagne comme tu l'as fait pour Israël pour que nous acceptions la Torah? Comment peux-tu nous reprocher de ne pas avoir fait la Torah? Est-ce que tu nous as forcés? Et les Tosfot va montrer de là que par conséquent, il ne peut pas y avoir de contestation, même pour Israël, sur le fait qu'il ne l'ait pas reçu, puisque une réception même de force est considérée comme une réception, puisque la Gemara dit clairement dans l'Odazara, « Im kofé alehem har gidit » s'il avait renversé sur eux la montagne, « lo royolohem shuvah » il n'aurait pas eu de réponse, il n'aurait pas pu dire à Dieu, « Mais est-ce que tu nous as contesté ?» Alors, il y a deux choses que le Tosfos dit. Nous allons, si vous voulez, le lire ensemble, donc ce Tosfos très rapidement. Pour ceux qui ont la version donc non ponctuée, c'est en haut à gauche. Ceux qui ont les deux pages, la page suivante, c'est-à-dire la Gemara ponctuée, le Tosfos se trouve dans la colonne de gauche, sous Rashi, c'est le texte que j'ai souligné, « Kofo Haleem Ha'afedi ».
Est-ce qu'il y a un lien ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a un lien ?
Je ne sais pas s'il reste encore de la Gemara. En principe, mettez-vous à côté de quelqu'un qui a une Gemara. Je suis désolé, il y en avait 50, ils ont été distribués hier. Alors, donc, Kofo, vous savez, Tosfot en général, est là soit pour poser une difficulté sur Rashi. Les Tosafis, c'est l'école des 10 enfants et des élèves de Rashi. Soit au contraire, pour dire, oui, mais ce que dit la Gemara ici, j'ai l'autre Gemara là-bas qui le contredit apparemment, puisque bien entendu, il faut qu'il y ait une cohérence absolue entre les enseignements les plus divergents du Talmud, sinon ça irait contre ce que nous disons nous juifs pharisiens, qu'il s'agit d'un corpus cohérent. Donc le rôle, effectivement, des Rahim, c'est pas de dire tout va bien, mais de dire, mais il y a quelque chose qui dit le contraire, apparemment. Et comment est-ce que c'est conciliable? Et si c'est pas conciliable, pourquoi? De quoi parle-t-on? Tout le monde a le... Kofo Aleim Hafedi. Il a renversé sur eux la montagne comme un bâton. Alors, d'emblée, Tosfos dit, le Afalpi, Shekvar, Gimuna, c'est le Nishmo, bien que, auparavant, ils avaient fait précéder l'affirmation nous ferons avant de dire nous écouterons. Bien que Israël avait eu ce mérite extraordinaire de dire Nassé, nous ferons. Avant de nous écouterons, avant de savoir même ce qui allait leur être ordonné. Et pourtant, Kofo Alehem Arfedidi, Dieu a renversé sa montagne. Alors dit, ou semble dire Tosfos, pourquoi, chez Mo, Nihu, Rosrim, que chez Yoru Eisha Godoylo, chez Yotsoso, Nishmuson. De peur que, donc Dieu a fait cela, de peur qu'il s'en retourne, il change d'avis, Roser, de peur qu'il se rétracte,
en voyant le grand feu qui est décrit dans le verset précédent de la Torah, vous savez qu'avant la théophanie, on a dit qu'il y avait un feu immense, des éclairs, vous avez le verset avant celui qui est souligné, n'est-ce pas, on dit que la montagne était couverte de feu et que le peuple a été très effrayé. Le peuple a tremblé. C'est marqué dans la Torah écrite, le verset qui précède celui que vous étudiez. Donc, il y a un Midrash qui dit qu'effectivement, Yotelson, Mishmoussan, devant la lettre, leur âme est sortie, ils sont morts de peur et ont ressuscité. En tout cas, c'était quelque chose de terrible. Alors, dit, semble dire Tosafot, la seule raison, en réalité, pour laquelle Dieu a fait cette fia, ce n'était pas du tout que pour les forcer en raison d'un refus qu'il y aurait eu de la part d'Israël, c'est parce que Dieu a eu peur, ou plutôt Dieu s'est rendu compte que devant ce feu, devant cette scène extraordinaire de la théophanie, eh bien, cet énorme feu tel que Israël entier perd connaissance, ça, perd son âme, perd son souffle, eh bien, il avait peur suffisamment de recul, et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il a fait cette fia. Le Maharal demain va nous montrer que, effectivement, ce que dit Tosafot est juste, bien entendu, mais il va nous montrer comment insérer cela dans l'ensemble de la lecture. Et comme le Maharal le cite, je voulais le voir avec vous pour que vous puissiez suivre demain son raisonnement. Alors la suite, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième partie, le Tosafot, le Ho de Omar, de Perekama, de Maser Zara. Et ce qui est dit dans Avodah Zara, la référence que vous avez signalée, c'est-à-dire le 2B, Kloum, Kofi Soleil Nohar, que dit 10, là c'est les nations du monde qui parlent à Dieu, lorsque Dieu leur dit pourquoi n'est-ce pas fait les mitzvot, et qui leur dit, est-ce que tu as renversé sur nous la montagne comme une cube, et je vous dis, et le verset continue, comme c'est pour Israël, ainsi qu'il est écrit, et on nous cite toute la Gemara. On nous cite Melam, etc., tout l'enseignement de Mashma, ce qui signifie cette interrogation de Imroyo Kofé Alehem. Si Dieu avait renversé sur la montagne, l'Oroyo Lohem Chouvo, il n'aurait pas eu de réponse, il n'aurait pas pu répondre à Dieu. Nous avons une bonne raison de ne pas avoir accepté la Torah. Une bonne raison de ne pas avoir accepté la Torah, parce qu'il ne nous a pas forcé. Chez les nations du monde, ça ne porte même pas. Encore, peut-être qu'ils n'ont pas accompli. Dieu le demande, avez-vous fait la mitzvot? Ils répondent, mais nous n'avons pas accepté. Est-ce que tu nous as forcé? Tu as avantagé Israël? Israël, tu l'as forcé. Nous, on l'a pas reçu. Israël ne peut pas dire qu'il l'a pas reçu. Donc, à leur niveau, ils disent, on ne l'a même pas reçu. La contestation porte sur la réception. S'il l'avait renversé sur eux, ils n'auraient pas pu répondre, qu'ils n'ont pas reçu. Le Hocho Omar est ici, dans notre Gemara Shabbat, que nous étudions en ce moment Israël, Omar de Modo, Arabol, Oraiso. Il dit qu'il y a une grande protestation vis-à-vis de la Torah. C'est ce que nous avons vu hier en détail, n'est-ce pas? Fermez la parenthèse. Haïnou, c'est-à-dire, en ce qui concerne la Gemara d'Avodah Zara, en ce qui concerne la nation du monde, Alma, Shelo, Kibluo, leur protestation porte sur le fait qu'ils n'ont pas reçu. Avalma, Shelo, Kimu, Ikotchouva. Mais sur le fait qu'ils ne l'ont pas accompli, ils auraient eu quand même une réponse. Si Dieu avait renversé sur eux, ils n'auraient pas eu la possibilité de dire on n'a pas reçu la Torah. Nous dit le Tosafot. Puis qu'ils disent Dieu leur reproche de ne pas avoir accompli la mitzvot. Qu'est-ce qu'ils répondent? Est-ce que tu nous as forcés? Le prophète Israël. Ce qui veut dire, j'explique sa faute, il n'y a pas de contradiction entre les deux endroits. Si Dieu avait effectivement renversé la montagne sur les nations du monde, il n'aurait pas pu contester la réception. Mais de toute façon, ils auraient pu continuer à contester, comme dans le cas d'Israël, qui lui a reçu la Torah de force, comme nous le dit Rashi, et le Rashi est très clair, c'est ce que Rashi nous le faisait entendre hier. Le Tosafot est clair, le Rashi. Que dit Rashi? Si Dieu le convoque en justice, Yasminom le din, l'homo lo kiyamtem machikibaltem alechem. Pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez reçu sur vous? Yashlom Shuva, Israël peut répondre, Shekiblu, Oynes, ils l'ont reçu. Il ne peut pas dire qu'ils l'ont pas reçu. Voilà donc si vous voulez, une première réponse qui, évidemment, n'est pas entièrement satisfaisante. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de prendre donc un texte du Midrash Tanhuma, qui va nous permettre, je l'espère, d'éclairer grandement l'ensemble du problème et de la kefia, et de l'attitude d'Israël, et de la difficulté de ce que c'est que la Torah. Je vous propose de lire ce texte en lui-même. Bien sûr, ce texte qui est ponctué, c'est celui que ceux qui sont arrivés en retard, il y a des textes derrière, qui sont là, sur la table à gauche. Le texte de Tanhuma mériterait à lui seul une étude d'un séminaire de 3 mois, et moi-même je ne l'ai pas préparé de cette façon approfondie. Il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il nous mâche la besogne. Il nous présente comme un ensemble où il va citer toute une série de versets, avec l'interprétation qu'on fait là de la Gemara, mais en prenant le Rav Tanhuma, n'est-ce pas, qui est du 4e siècle, et qui est évidemment un des grands Tamir Hamim, un des grands de l'époque de la Gemara, qui va ramasser tel et tel passage, en les mettant côte à côte pour faire un discours cohérent. Autrement dit, il fait ce travail que nous essayons de faire péniblement en allant chercher à tel endroit, tel endroit, il le fait déjà, et il nous donne en même temps l'interprétation. Mais c'est un discours qui apparemment parle d'autre chose. Alors, je vous demande là aussi d'essayer, j'allais dire, d'oublier dans un premier temps tout ce que nous avons étudié, même depuis hier. De lire ce texte en lui-même, comme une dracha, un petit sermon. Et puis chaque fois, évidemment, nous arrêterons, chaque fois qu'il y aura quelque chose, où vous direz, tiens, mais ça m'éclaire, notre Gemara d'hier fera tilt, dans un deuxième temps, effectivement, nous verrons dans quelle mesure, effectivement, ce que dit le Tanhuma peut répondre à notre question. Dans un premier temps, essayons de voir déjà la cohérence du Tanhuma. Ce texte, apparemment, n'a rien à voir avec notre problème. Pourquoi l'ai-je choisi ? Eh bien, parce que presque tous les commentateurs le citent, ou tout le monde en cite 4 lignes. Donc, quand nous arrivons à ces 4 lignes, vous verrez pourquoi. Ce n'est pas du suspense, nous allons y arriver dans 10 minutes. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas échapper, si on fait une étude sérieuse de Gemara, de lire ce texte. J'aurais pu prendre les 4 lignes, mais je crois que ça vaut la peine de prendre tout au moins le début, on ne peut pas attendre de tout lire, je vous résumerai la fin, de prendre le début, parce que vous verrez la cohérence du sujet. Alors, il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le chapitre l'Exode, ni avec le livre d'Esther, mais il s'agit de Noé. C'est un commentaire, vous l'avez, c'est Gimel, n'est-ce pas ? Vous l'avez, j'ai tiré un petit trait au début. Et alors, vous avez tous une version ponctuée, je crois que vous donnez, une version localisée. Alors, Eilo, Eile Toldos, Noar. C'est le début, donc, de la deuxième paracha de la Genèse, qui parle de Noé, et qui dit, voici les enfants de Noé, Noé. C'est évidemment un problème, on nous dit. On s'attendra à dire que Noé, ben, il a eu des fils, Cham, Cham et Yafet, n'est-ce pas ? Et on nous dit, voici les engendrements de Noé, 2. Noé. Alors, on ne comprend pas comment Noé s'est engendré lui-même, n'est-ce pas ? C'est même pas de la parthénogenèse, c'est de l'autogenèse, sans jeu de mots. Et donc, nous verrons que c'est vrai. Que c'est vrai. Mais quoi ? Alors, nous lisons, vous m'arrêterez si je vais trop vite. Je vais lire phrase par phrase et traduire. Isborar Shemo Shemeler Malchim Amlochim Hakodesh Baruch Hu, béni le nom du roi des rois des rois, le Saint béni est-il, Shebochar de Israël Mishivim Umos, qui a choisi Israël parmi 70 peuples. Que Moshe Kosov, parce qu'évidemment tout ce qui est dit doit être prouvé, même ça. Surtout ça, que Moshe Kosov, comme il est écrit, et c'est une, vous avez là dans cette édition ponctuée, en plus, c'est très agréable, toutes les citations sont référencées, l'éditeur a mis entre parenthèses, vous voyez, après chaque citation biblique, la référence biblique, par contre, les passages talmudiques, il ne les a pas mis, j'ai essayé de retrouver les sources, j'ai trouvé les sources talmudiques de certaines, pour les autres, je n'ai pas réussi à les trouver encore. Mais si le Tanhuma les cite, vous pouvez lui faire confiance, c'est qu'elles existent. Alors, ainsi qu'il a donc, que Dieu a choisi Israël parmi 70 peuples, que Moshe Kosov, comme il est écrit, Yichelek Hashem Amo, Yaakov Heven Nachalufo. C'est un verset du Deutéronome qui dit car Jacob est la part, PRT, sa part, Yichelek Hashem Amo, non pardon, j'ai mal lu, Yichelek Hashem Amo, virgule, car son peuple, c'est la part de Dieu, c'est la part que Dieu s'est choisie pour lui. Yaakov, Chevel Nachaloso, Jacob est, VST, Jacob est la corde de son héritage. On traduit en général la possession, le lot, enfin, la corde, parce que j'ai vu des commentateurs qui expliquent qu'effectivement, il a noué ensemble, comme les fils d'une corde, l'ensemble des tribus qui constituent Israël. Donc, Dieu a choisi Israël, comme il est écrit, nous avons la preuve dans la Torah écrite, car son peuple, c'est la part de Dieu directement. Vous savez qu'il y a chaque peuple a son prince céleste qui le représente dans les mazalot, dans le déterminisme cosmique dans les cieux. Et Ein Mazal Israël, il n'y a pas, dit-on, de déterminisme pour Israël. Israël, dans la mesure où il est Israël de la Torah, c'est-à-dire où il accepte le joug de la Torah, est directement sous le joug de Dieu. Car son peuple, c'est la part qui s'est choisie, le Seigneur. Jacob, c'est la corde de son héritage. Venosan l'onu est sa Torah. Et Dieu nous a donné, donc à nous, Israël, hein, il est défini, la Torah. Pardon, j'ai. Venosan l'onu est sa Torah, birsov, rishumo. Et il nous a donné la Torah dans l'écrit dont il a lui-même laissé le tracé, dans l'écrit de son tracé. Vous savez qu'on nous dit de la Torah que les paroles étaient les paroles de Dieu dans les tables de la loi, n'est-ce pas? Donc l'écrit dont le tracé, il a lui-même laissé le tracé dans son écrit. Il s'agit donc ici de la définition de quoi? De Torah, je vais dire ça. La Torah. Mais là, le Talmud ne dit pas Torah chez Birtab, il explique la Torah dans l'écrit de sa trace, dans l'écrit dont il a même laissé le tracé. Beremez, et il va expliquer là, qu'est-ce que c'est la Torah écrite, Beremez se founois ou se soumois. La Torah, donc dans l'écrit de son tracé, avec dans cette Torah l'allusion des choses cachées et enfermées. Safon, c'est fermé. Les choses fermées et closes. Donc la Torah écrite contient en allusion tous les secrets. Et c'est Dieu qui l'a mis ainsi avec son propre choum. Ou faire choum, bah Torah chez Baalpé. Et il a expliqué, il les a expliqués, donc toutes les choses cachées, bah Torah chez Baalpé dans la Torah orale. Je vais vous faire marquer, parce que tout à l'heure nous en aurons besoin, que Torah orale se dit d'une façon très curieuse, Torah qui est dans, qui est avec, par, alpé, sur la bouche, n'est-ce pas? Torah. Ve gilo osom le Israël. Et il a dévoilé, révélé, il les a révélés, donc ces secrets qu'il a explicités dans la Torah orale, il les a révélés à Israël. Bon, donc ici nous avons un enseignement très important. Il y a un peuple qui est que Dieu choisit. Pourquoi? Pour ce qui suit, pour recevoir la Torah. Et la Torah se compose de deux. Je pense que je ne veux pas devancer Tik Dimou Nasser Nishma, ce que dira ce soir mon ami Ansel. Je sais qu'il doit parler de ce problème, de ce double aspect de la Torah, Torah écrite et Torah orale. C'est très bien que nous lisions ce texte maintenant, parce que je pense que ça va éclairer pour vous de façon remarquable ce que nous dira ce soir Georges Ansel, justement sur le problème de Torah écrite et Torah orale. Donc, d'emblée, on nous dit qu'il y a deux Torahs, puisqu'on distingue la Torah écrite, qui contient en allusion en remez. Moi, je dis souvent à mes amis, à mes élèves, vous savez, la Torah écrite, c'est l'aide-mémoire bordas, Ravdil. L'aide-mémoire bordas pour le bac. L'aide-mémoire incompréhensible quand on a lu sur les bouquins. Alors chaque mot, évidemment, hein, c'est l'antisèche. Hein. Dans chaque mot, on a une allusion pour retenir un certain chose. Bon, c'est une comparaison grossière, mais vous voyez ce que je veux dire. La Torah, hein, elle contient en allusion toutes les choses cachées et fermée. Dieu les a dévoilés dans la Torah orale, et cette Torah orale, il a également donné à Israël. The law odd. Mais il y a plus encore. Enfin, on va maintenant approfondir la notion, qu'est-ce que c'est Torah écrite, Torah orale. The law odd. Elo chez Torah, chez Dirsov, Glelout. La Torah, alors là il emploie bien le mot Torah chez Dirsov, il n'y a pas d'ambiguïté. La Torah écrite, eh bien, contient le général, la généralité. The Soiro chez Balpé, Protus. Et la Torah orale contient ce qui est particulier. Par exemple, la Torah écrite, il est écrit, il faut faire le Shabbat. La Torah, il n'est pas écrit comment ? La Torah orale qui nous explique comment. La Torah écrite nous dit, il faut manger kasher. L'eau, yevachel, gedi, bechlevimo. Tu ne cuiras pas, l'eau, c'est vachel. Tu ne cuiras pas, n'est-ce pas, l'agneau dans le lait. Et toutes les lois de la kashrut, et les casseroles, milchtik, et fleishtik, et comme ça, et comment kasheriser, et comment faire la tfila, et tout cet ensemble qui prend des centaines de pages, vous l'avez pas dans la Torah écrite. Vous l'avez dans la Torah orale. En allusion, oui. Il écrit trois fois, tu ne cuiras pas, etc. De ces trois fois, on tire bon, des déductions. De même pour le Shabbat, on a toute une herméneutique, des règles d'interprétation, reçues également au Sinaï. Mais en tout cas, il est certain que la Torah écrite ne donne que le général, le principe. Elle donne le principe des commandements et le détail des commandements se trouve dans la Torah orale. C'est clair jusqu'à présent. Je ne fais que lire et, disons, expliciter un petit peu ce que dit le Tanhuma. Ve Sora Shebalpe Harbe. La Torah orale, elle est immense, il y en a beaucoup. Ve Torah Shebirtav Me'at. La Torah écrite, elle est toute petite, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, les cinq livres de Moïse, c'est pas beaucoup. Et la Torah orale, c'est tout l'ensemble du Talmud, du Midrash, de tout ce que nous avons bon, défini, tout cet énorme. Œuvre encyclopédique, d'abord transmise oralement, pas l'oublier, et mise petit à petit par écrit. Par conséquent, nous voyons qu'il y a une différence, pas de nature, mais presque, entre Torah écrite et Torah orale. Généralité, il y en a très peu. La particularité, et donc, c'est quelque chose de très vaste. Vous voyez que ça fait déjà tilt un peu, je pense, pour vous, par rapport à notre Gemara. Pas encore, ça va venir. Ve al shebal penema. Et au sujet de la Torah orale, il est dit dans Job, Aruko me eres mido, ou chovo minium. Au sujet de la Torah orale, je précise bien, Torah shebal pe. Sa mesure est plus longue que la terre, plus longue que la terre et sa mesure, et plus large que la mer. Autrement dit, la Torah orale, c'est quelque chose qui dépasse quoi ? Qui dépasse le monde naturel que nous connaissons. La mesure de la Torah orale, elle dépasse en longueur et en largeur aussi bien la terre, Eretz, que la mer. Bon, comme je vous disais, il faudrait étudier pour soi chacun de ces thèmes. En tout cas, l'idée, c'est que la Torah orale, c'est quelque chose qui dépasse complètement les mesures du monde, de la matière, et nous allons voir, ça va s'éclairer. Et le Tanhuma va plus loin. Et la phrase qui suit est extrêmement curieuse. Oursif. Et est écrit toujours dans Job, un peu plus loin. Velo simotse beret achayim. Donc on a vu d'abord que ça dépasse la terre et la mer. Pardon. Mais en plus, il y a un endroit de Job qui dit, et on ne la trouve pas dans la terre des vivants. On ne la trouve pas dans la terre du vivant. Et alors, velo simotse beret hachayim, et elle n'est pas trouvée, massa, et elle n'est pas sanifal, et elle n'est pas trouvée, on ne la trouve pas dans la terre des vivants. Alors, le Tanhuma aussitôt s'interroge, umai lo simotse beret hachayim, et qu'est-ce que ça veut dire? On ne la trouve pas dans la terre des vivants. Est-ce que on va trouver la Torah orale chez les morts, dans la terre des morts? Réponse. et l'eau. Mais il faut comprendre. Chez l'eau, si motse, soira chez Balpé, et tselmi, chez Yevakesh, oinek ou oilam, tavo, le chouvot, ou gedoulo, va oilam hazé. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ce que Job, le verset de Job, cela veut dire que, on ne trouve pas la Torah orale chez celui qui désire la jouissance du monde. Oinek ou olam. Oinek. Tava, le désir. Kovot, l'honneur. Ugedula et la grandeur. Bo olam hazé. Dans ce monde-ci. Et l'eau. Mais on trouve la Torah orale. Bemi, chez Meimis. C'est moi qui insiste. C'est Meimis Atmo Oleo. Chez celui qui se tue lui-même sur elle. Je pense que ça vous fait tilt quand même par rapport à notre Gemara d'hier. Si tu ne prends pas, n'acceptes pas la Torah, là-bas sera ton tombeau. On ne comprend pas encore, mais il y a un lien. On nous parle de mort, de se tuer, et là-bas on nous parlait d'accepter la Torah ou de ne pas accepter la Torah. On va le voir plus clair tout à l'heure, j'espère. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant, celui qui se tue sur elle? Bon, ça veut dire qu'il faut prendre un couteau et se tuer. Alors, il va l'expliquer. Chez Neymar, parce que, encore une fois, vous voyez chaque fois que le Targum apporte un verset, il l'explique. Il l'explique par la Gemara, par une Gemara. Chez Neymar, comme il est dit, Zois hatoiro, odom ki yomos bohel. C'est un verset dans Bamidbar où on parle des lois concernant la façon de pureté, d'impureté, etc. Et en raison d'une précision que partout on nous dit Torah Kohanim, ou Torah Odam, ou Torah du lépreux, entre guillemets, enfin du lépreux, vous savez, ou Torah de celui qui a une pollution, et là on dit Torah tout court. Alors, la Gemara va lire, et là vous pouvez noter la référence, je l'ai trouvée, c'est dans Shabbat 83b, en bas de page, et dans Brachot, et dans plusieurs autres endroits. Eh bien, la Gemara interprète comme ça, comme le cite Tanhuma. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui se tue sur elle? Comme il est écrit, voici la Torah, deux points, Odom ki yomot bohel, l'homme qui mourra dans la tente. Vous savez que Ohel, la tente, c'est le lieu d'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se tue lui-même. Eh bien, ça veut dire celui qui se tuera lui-même par l'étude. Cela veut dire celui, chez Memis Atzmo, qui supprimera son équation personnelle. Celui qui réussira à ôter de lui-même son équation personnelle pour arriver à s'intégrer dans l'équation de la Torah orale, celui-là seul aura accès à la Torah orale. Sur le plan, je me souviens, j'ai lu, évidemment, quand j'ai lu, ça m'a arrivé des problèmes, et j'ai demandé à un de mes maîtres, Rav Rotenberg, le sens de ce verset, eh bien, cela veut dire aussi, bien entendu, sur le plan individuel, celui qui est capable de tuer en lui le Yetzer Hara, c'est-à-dire la partie du Gashmiyut, la partie corporelle de l'instinct, celui qui va dominer son instinct, pour arriver à faire que c'est le spirituel qui domine, c'est celui-là seul qui aura accès à la Torah orale. Comme nous avons vu, celui qui aime Oneg, la jouissance de la Mazé, qui cherche la gloire, les honneurs, ne pas accéder. Ça ne veut pas du tout dire qu'on nous dit de mener une vie d'ascète pour l'instant. On ne nous dit pas qu'il faut devenir non corporel. Il ne s'agit pas d'une optique chrétienne, il ne s'agit pas d'une optique essénienne. Mais on nous dit, attention, la Torah orale, c'est pas n'importe quoi. Ça demande un dépassement. Ça demande, j'allais dire, c'est pas surhumain, c'est humain. C'est surnaturel, au sens où nous disons de nous, pour ceux qui étaient là au séminaire avec Léon Askenazi, nous avons fait ensemble à Hanouka, vous vous souvenez, le monde de la nature des sept jours, et Israël, par la Torah, transcende le monde surnaturel, ça veut dire ceux qui transcendent le monde de la nature et qui arrivent à échapper au déterminisme pour être au niveau de la Torah, du Ruchaniot, du spirituel, de ce qui donne le sens au monde. Donc je dirais, effectivement, surnaturel, mais pas surhumain. Humain, au sens où il serait un homme, c'est celui qui se tue lui-même. Est-ce que tous les juifs sont capables d'atteindre ce niveau? Le Talmud va nous rassurer tout de suite. Bon, c'est pas réservé à tout le monde.